Introduction. Le jeudi 20 décembre 1945, le rédacteur en chef du Sunday Dispatch, Charles Eade, déjeunait avec Winston Churchill et sa femme Clémentine dans leur nouvelle maison de Londres près de Hyde Park. Eade préparait l'édition des discours de guerre du Premier ministre et il devait discuter du dernier tome en date. Avant le repas, Eade avait attendu dans ce qu'il décrivit plus tard comme une magnifique pièce avec des rayonnages encastrés dans le mur qui contenait des exemplaires superbement reliés d'ouvrages français et anglais, que Churchill avait baptisé sa bibliothèque de snob. Les murs en étaient décorés de tableaux représentant son grand ancêtre, le premier duc de Marlborough, ainsi que de son propre portrait exécuté par Sir John Lavery au cours de la Première Guerre mondiale. Le menu reflétait le rationnement qui régnait dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Des œufs en entrée, de la dinde froide avec de la salade, du plum pudding et du café. Ils burent une bouteille de médoc que le maire de Bordeaux venait d'envoyer. Churchill confia au fidèle journaliste, qui avait plusieurs fois déjeuné avec lui pendant la guerre, qu'il avait beaucoup trop bu au cours du dîner de la veille au soir à l'ambassade de France, en ajoutant avec un petit gloussement « encore plus que d'habitude ». Devant plusieurs verres de cognac accompagnés d'un cigare, dont Eade emporta la bague en souvenir, Churchill entama la discussion sur la meilleure façon de publier les discours qu'il avait prononcés lorsque la Chambre des communes avait siégé à huis clos pendant la guerre. Au cours de leur conversation d'une heure, il montra à Eade les 68 volumes de notes, de procès-verbaux et de messages qu'il avait envoyés à différents membres du Conseil des ministres restreint et aux chefs d'état-major entre 1940 et 1945, en l'autorisant à les ouvrir au hasard. À Eade, qui, naturellement, exprimait sa surprise devant l'ampleur énorme des tâches que Churchill avait réussi à accomplir comme Premier ministre, il expliqua qu'il avait été à même de centraliser le traitement de toutes ces questions parce que toute sa vie avait constitué un entraînement pour les hautes fonctions qu'il avait exercées pendant la guerre. C'était là un sentiment que Churchill avait déjà exprimé 2 ans auparavant auprès du Premier ministre du Canada, William Mackenzie King, lors de la conférence de Québec, en août 1943. Lorsque King avait dit à Churchill que personne d'autre que lui n'aurait pu sauver l'Empire britannique en 1940, il avait répondu qu'il avait bénéficié d'un entraînement exceptionnel, ayant traversé une guerre antérieure et acquis une vaste expérience du gouvernement. Sur quoi King reprit « Oui, cela confirmait presque la vieille idée presbytérienne de la prédestination ou de la préordination, le fait qu'il avait été sélectionné pour cette fonction. » Cette idée a été réitérée par l'homme politique conservateur Lord Ailsham, qui avait eu de petites attributions ministérielles dans le gouvernement de guerre de Churchill lorsqu'il a dit « Le seul et unique cas où je crois pouvoir discerner le doigt de Dieu dans l'histoire de notre époque, c'est l'accession de Churchill au fauteuil de Premier ministre à ce moment précis de 1940. » Churchill formula ses propos tenus devant King et Eade dans un style beaucoup plus poétique dans les dernières lignes de son ouvrage « L'orage approche ». Le premier tome de ses mémoires de guerre. Se remémorant la soirée du vendredi 10 mai 1940, où il était devenu Premier ministre seulement quelques heures après le déclenchement par Adolf Hitler de sa guerre éclair en direction de l'Ouest, Churchill écrit « J'avais l'impression d'être guidé par la main du destin, comme si toute mon existence préalable n'avait été qu'une préparation en vue de cette heure et de cette épreuve. On ne pouvait me reprocher ni d'avoir fomenté la guerre, ni d'avoir négligé de la préparer. Je pensais connaître pas mal de choses sur la question, et j'étais sûr que nous n'allions pas défaillir. » Il croyait en son destin depuis au moins l'âge de 16 ans, lorsqu'il dit à un ami qu'il allait préserver la Grande-Bretagne d'une invasion étrangère. L'admiration qu'il porta toute sa vie à Napoléon et à son propre ancêtre, John Churchill, premier duc de Marlborough, nourrissait sa conviction que lui aussi était l'homme du destin. Être né au sein de l'aristocratie et porter 2 célèbres noms, Spencer et Churchill, lui donnait une colossale confiance en lui, qui le rendait indifférent aux attaques personnelles. En prenant position courageusement et souvent seul, comme il le fit, contre la double menace totalitaire du fascisme et du communisme, il se souciait bien davantage d'imaginer ce qu'aurait été la juste opinion de ses compagnons d'armes tombés au cours de la Grande Guerre que de ce que disaient ses collègues bien vivants sur les bancs de la Chambre des communes. La mémoire de ses amis morts à la guerre, par accident, comme Laurence d'Arabie, ou encore par alcoolisme, comme Effie Smith, émouvait souvent Churchill jusqu'aux larmes. Mais c'était le cas de bien d'autres choses, comme on le verra. Ses passions et ses émotions le submergeaient souvent, et cela ne l'a jamais dérangé de pleurer en public, même quand il était Premier ministre, à une époque où l'on cultivait la retenue. C'était là seulement l'un des nombreux éléments qui faisait de lui une personne absolument à part. Le présent ouvrage s'attache à montrer à quel point extraordinaire l'existence préalable de Churchill en 1940 n'avait été, en vérité, qu'une préparation en vue de cette Seconde Guerre mondiale où il fut aux commandes. Il explore les 1000 leçons que le futur Sir Winston Churchill a apprises au cours des 65 années écoulées avant qu'il ne devienne Premier ministre et se penche ensuite sur la manière dont il a appliqué ces leçons alors que la civilisation traversait les épreuves les plus accablantes qu'elle ait jamais connues. Car s'il est vrai qu'il a été guidé par la main du destin en mai 1940, c'était un destin qu'il avait consciemment passé sa vie à forger.